Bonjour Marie-Caroline, comment allez-vous pour cette nouvelle émission?
Bonjour Bernard, très bien et vous?
Écoutez, ça va très très bien. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler de la gestion de patrimoine des femmes, donc la gestion de patrimoine dédiée aux femmes. Et quand vous m'avez proposé ce sujet, j'ai tout de suite pensé au Marchand de Venise de Shakespeare, même si le contexte est un petit peu différent. Je vais vous lire, j'ai un peu changé, hein. Le Marchand de Venise, il parle pas des femmes, mais j'ai un peu changé. Je suis femme, une femme n'a-t-elle pas des yeux, une femme n'a-t-elle pas des mains, des organes, un corps, des sens? N'est-elle pas guérie par les mêmes moyens, réchauffée et refroidie par le même hiver et le même été qu'un homme? Si vous nous piquez, est-ce que nous ne saignons pas? Une femme n'est-elle pas comme un homme et n'a-t-elle pas les mêmes besoins en gestion de patrimoine? Est-ce qu'il existe vraiment une gestion de patrimoine spécifique aux femmes?
Ouais, je pense. Ouais. En gros, avant de rentrer vraiment dans le sujet, j'aimerais juste donner quelques statistiques pour qu'on parte du même pied. Donc déjà, en 2020, les femmes, elles contrôlaient 33% de la richesse mondiale, donc un tiers. Par contre, en fonction des pays, ça varie beaucoup. Donc aux US, par exemple, les femmes, c'est 51% de la richesse. Mais par exemple, au Royaume-Uni, en 2025, donc c'est vraiment demain, on dit que les femmes vont avoir 60% de la richesse. Donc c'est vraiment plus que la majorité. Et donc en fait, tout ce qui était gestion de patrimoine jusqu'à maintenant se basait sur les besoins des hommes, donc en enfonçant le cliché, on va dire, sur la performance. Alors qu'en fait, les femmes ont besoin d'autre chose. Et donc du coup, il y a vraiment un enjeu qui est énorme d'attirer et de retenir les femmes parce que maintenant elles vont détenir la majorité de la richesse dans certains pays. Et donc du coup, il va falloir comprendre les besoins, les intérêts, les comportements face à l'argent qui sont différents. Mais clairement, il y a un gros challenge parce qu'il n'y a que 15% des conseillers financiers qui sont des femmes. Et il y a des études, parce que c'est vraiment un énorme sujet en ce moment. Il n'y a jamais eu autant de transferts de richesses des hommes aux femmes. Et donc, du coup, par exemple, McKinsey a fait des sondages comme quoi 60%, 70% des femmes allaient changer ou avaient changé de conseiller financier un an après la mort de leur conjoint. Donc, définitivement, ça montre bien que les femmes attendent autre chose. Et que la gestion de patrimoine, qui était à la base plus focalisée sur les besoins masculins, du coup, doit se réinventer.
Très bien. Alors, et pourquoi est-ce qu'on a déjà ce transfert de richesse entre les hommes et les femmes? C'est lié toujours hein, aux différences de mortalité, c'est lié
C'est ça.
peut-être.
La principale raison, c'est la mortalité. Et après, encore une fois, en fonction de certains pays, par exemple en Angleterre, on sait que les femmes de moins de 30 ans gagnent mieux que les hommes, qu'entre 30 et 40 ans, c'est égal. C'est qu'à partir de au-dessus de 40 ans, donc est-ce que c'est l'arrivée des enfants ou alors est-ce que c'est juste générationnel? Et c'est la même chose en fait pour les États-Unis. Donc il y a quand même aussi le fait que les femmes sont plus diplômées, qu'elles gagnent mieux et donc du coup qu'elles vont être plus impliquées par leur argent. Donc il y a ces deux effets, mais l'âge compte beaucoup.
Et alors, juste une précision sur les statistiques que vous nous avez données. On parle de richesse en valeur mobilière ou de richesse totale en incluant l'immobilier?
Total.
De richesse totale. D'accord. Et vous nous avez dit que les femmes sont moins attachées à la performance. Donc, elles rechercheraient de la sécurité, c'est ça?
Pas nécessairement. En fait, elles ont besoin de trois vraiment gros critères. Donc, c'est le premier qui est la base de tout, c'est qu'elles veulent que leur argent fasse du sens. Et donc, du coup, elles donnent beaucoup de l'importance au pourquoi. Pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais ça? Voilà. Donc, sans cette notion de pourquoi, où elles vont pas être, elles vont pas être impliquées dans leur gestion. Deuxièmement, elles veulent de l'empathie. Donc, elles ne veulent pas qu'on pousse des produits, elles veulent qu'on les écoute et elles veulent vraiment créer une espèce de relation de confiance. Et pour créer la relation de confiance, ça met toujours du temps. Et donc, elles veulent vraiment qu'on les touche. Et Il y a eu des études qui ont été faites. Par exemple, dans mon podcast Money Chillax, j'avais interviewé une gestion de fortune, une gestionnaire de fortune de The Ladies Bank qui appartient à Odo. Et du coup, ils disaient que 50% de leur job, c'était de la psychologie. C'est vraiment comprendre la personne, l'écouter et du coup, bah, s'adapter à ce qu'elle a vraiment besoin plutôt que juste assumer que bah, ça va être la meilleure performance, le meilleur fond, le meilleur ceci. Ça, en fait, ça les touche pas. Et la troisième chose dont elles ont besoin, c'est qu'en fait, elles sont très pratiques. Donc, en fonction des situations qu'elles vivent dans leur, enfin, dans leur vie, en fait, de tous les jours, elles vont avoir besoin d'aide et de solutions pratiques. Donc, ça va être, je ne sais pas, je me marie, qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie d'avoir des enfants, qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie de transmettre du patrimoine, comment je peux le faire? Enfin, donc, ça va être vraiment des cas réels. Et donc, du coup, avec cette envie, comment le gestionnaire de patrimoine va pouvoir aider. Ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que toujours cette femme que j'avais interviewée, Alix Doranty, elle avait dit que Odo, du coup, avait fait des études assez poussées à partir de 2013-2015, parce qu'en fait, ils se rendaient compte que dans leur plateforme de gestion de fortune, ils avaient 45% de clients femmes. Par contre, dans les rendez-vous, ils avaient 80% d'hommes. Et donc, en fait, ils se sont vraiment posé la question, comment ça se fait? Parce qu'en fait, les clientes femmes envoyaient leur père, leur frère, leur conjoint, etc., à leur place. Pourquoi? Parce qu'elles ne se sentaient pas mises en valeur ou elles ne voyaient pas l'intérêt. Et donc, en fait, en changeant juste quelques petits axes, en fait, en vraiment comprenant la personne, il suffit pas de grand-chose, mais il y a un petit twist à faire et ça va loin.
D'accord. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un gestionnaire de patrimoine doit faire de différent s'il veut garder une femme comme client, donc après un décès, après une succession ou après quelque chose comme ça? Et comment est-ce que techniquement il doit l'aborder? Parce que c'est facile de dire dans mon métier 50% c'est de la psychologie, mais en même temps que je vous écoute, je pensais un peu à mes clients. C'est vrai que l'immense majorité de mes clients, c'est les hommes, ou en tout cas les gens avec qui j'échange, c'est des hommes, mais je peux vous garantir que 50% c'est de la psychologie aussi. Qu'il faut expliquer, qu'il faut intégrer, qu'il faut comprendre la personne. Il y a des personnes avec qui il faut parler un peu dur, il y a des personnes avec qui il faut parler souple, il y a des personnes avec qui il faut être didactique, il y a des personnes, enfin voilà. Et en comprenant ça, on comprend comment discuter. Mais j'ai envie de dire, quasiment n'importe quel métier de contact, 50% c'est de la psychologie, hein. Je pense
Bonjour à tous.
à je
Bonjour
pense je pense
Bernard.
je pense aux médecins. On est en Désactive ton micro, s'il te plaît. Donc on a un petit peu tout ça à voir et à le prendre. Et je pense à un médecin qui me faisait la réflexion, le pédiatre des enfants, et un jour il m'a dit, être pédiatre, c'est aussi être un peu psychiatre pour les mamans. Donc voilà, donc lui aussi carrément, c'était de la psychologie. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus dans la gestion de patrimoine d'une femme et qu'est-ce qu'il y a de vraiment différent? Parce qu'un homme aussi, il va me dire, attendez, moi je veux pas, vous allez pas m'acheter de l'armement ou des choses comme ça. Un homme aussi, il va dire, moi il faut que je comprenne ce que vous faites parce que mon argent dans vos trucs à droite à gauche, ça m'intéresse pas. Et un des succès du private equity aujourd'hui, c'est aussi qu'on voit très bien où on met son argent. Quand on vous dit, voilà, on finance un hôtel. Ben le gars, il se dit, ben voilà, je mets mon argent dans cet hôtel. Si cet hôtel marche, j'en touche plus. Si cet hôtel marche pas, j'en touche moins. Mais on ne viendra pas m'expliquer quelque chose d'incompréhensible et de totalement aberrant pour m'expliquer pourquoi telle action dans tel portefeuille de tel fonds que j'ai a baissé.
Je dirais, et j'aime bien que vous partagiez justement cette vision avec vos clients. Je prends un exemple très simple. Je coach une femme en ce moment qui justement est dans votre cible, c'est-à-dire qui divorce, qui va avoir un gros package et du coup qui doit gérer son argent plus ou moins pour la première fois de sa vie. Et du coup qui réfléchit où la placer. Son critère numéro un, c'est justement la relation avec la personne qui gérera son argent. Donc, c'est la seule, le seul critère, on va dire, en faisant plus simple. Et du coup, elle me dit, ah, j'ai halluciné. En gros, un des candidats, enfin, un des potentiels gestionnaires de portefeuille qui m'a contacté s'est trompé de là où je vivais. Donc, en gros, c'est un no-go. Et donc, en fait, c'est vraiment une meilleure écoute, je pense. Encore une fois, ce n'est pas révolutionner la chose. Comme vous avez dit au début, hommes et femmes, on est plus ou moins fait de la même façon, mais c'est vraiment meilleure écoute, empathie, et du coup, vraiment une relation de confiance où la personne. On sait que les femmes sont moins financially literate que les hommes. Et donc, du coup, bah, quand on a cette relation de confiance, on va pouvoir poser les questions, on va pouvoir, même si elles paraissent stupides, bêtes, il n'y a jamais de questions bêtes. Donc, du coup, c'est vraiment en ayant cette relation qu'on attend qu'on va pouvoir avoir une bonne vision.
Alors, si on essaye un petit peu d'utiliser votre savoir, bon, qu'est-ce que vous diriez à un gestionnaire de patrimoine qui va recevoir une femme pour la première fois ou qui va s'occuper de l'argent pour une femme? Quelles sont les trois choses auxquelles il doit vraiment penser dans son attitude et on va dire avoir une attitude spécifique? Et après, on va se mettre de l'autre côté. Qu'est-ce que vous diriez à une femme, donc à une de nos auditrices qui va avoir un gestionnaire de patrimoine, à quoi elle doit aussi penser et elle doit aussi, elle, se préparer ou de savoir à qui elle va parler et qu'est-ce que lui peut lui apporter et qu'est-ce que lui ne peut pas lui apporter?
C'est super question. Donc, pour le gestionnaire de patrimoine qui est un homme et qui a envie d'avoir une cliente femme, je dirais vraiment une super écoute. Deuxièmement, poser des questions et pas assumer, parce que encore une fois, on fait souvent des liens qui sont faux. Et troisièmement, ne pas proposer de produits tout de suite. Mais vraiment de commencer la discussion avant d'être un peu plus agressif, on va dire, sur le comment on va faire. Et pour la femme, du coup, c'est pour ça que ben, je coach. C'est du coup connaître ses besoins, connaître ses envies, connaître son pourquoi, qui est encore une fois un des facteurs principaux des femmes. Et donc, du coup, quand on sait ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, il reste plus que le comment on va faire. Et donc, comment on va le faire, on va justement parler à des banques, des banques privées, etc., pour avoir une meilleure idée des produits qui sont conseillés. Mais donc, avant de parler du comment, on parle de tout ce qu'il y a avant.
Et alors après, sur la manière et la façon de gérer son patrimoine. Donc, si on essaye de catégoriser des grandes façons, il y a d'abord des gens qui veulent le gérer tout seul parce qu'ils ont la compétence ou parce qu'ils sont persuadés d'avoir la compétence. Il y a de plus en plus de plateformes et d'offres directes sur Internet qui permettent de doter des intermédiaires et de laisser vraiment la main à un client qui pourrait le faire. Donc, on va dire première catégorie, les gens qui gèrent tout seuls. Deuxième catégorie, il y a des gens qui ont envie de se proximiser d'une banque parce que ça les rassure. Donc, soit dans leur banque de détail, soit dans le département gestion de fortune de leur banque de détail par laquelle ils sont arrivés. Mais ils ont l'impression que la banque est une forteresse ou une citadelle dans laquelle ils seront meilleurs. Et puis, une troisième catégorie de gens qui font appel à des conseillers spécifiques, donc qui peuvent aller dans des sociétés de gestion, chez des gestionnaires de patrimoine dédiés dans des family office, travailler ça avec leur assureur classique qui a un petit peu évolué en gestionnaire de patrimoine. Enfin, en tout cas, on va dire un professionnel, mais pas une banque. Et alors, est-ce que vous avez du retour? Est-ce que vous savez si les femmes ont un endroit préféré, un lieu préféré pour s'exprimer?
Encore une fois, c'est dur de faire des généralités et je pense aussi que ça dépend bah, de la connaissance, peut-être aussi de l'âge. Voilà. Clairement, le fait de tout faire soi-même, c'est quand même plus rare, même si j'ai des clientes dans la trentaine qui vraiment ont envie de comprendre ce qu'elles font et donc du coup, pour comprendre, il bah, faut vraiment mettre un peu les mains dans le cambouis. mais la plupart, en fait, veulent vraiment un accompagnement. Alors après, un accompagnement, on peut quand même faire sa sélection d'actifs, on peut choisir ses fonds, on peut, etc., et puis aller, après laisser le professionnel faire. Mais voilà, quand même, et c'est pour ça qu'en fait, cette relation avec le banquier ou un professionnel fait vraiment du sens, puisqu'elles en ont envie pour leur gestion. Parce que la plupart du temps, elles ont quand même des agendas ou des envies qui ne permettent pas d'avoir vraiment, de vraiment tout faire soi-même, et donc du coup, ont besoin d'avoir quelqu'un qui font pour elles.
Alors, je vais vous poser la dernière question, et c'est sur cette question qu'on va arrêter ce thème. Une des raisons principales des hommes de choisir un conseiller financier, un CIF, ou en tout cas une structure différente d'une structure bancaire classique, est la permanence du conseiller. C'est-à-dire de dire, voilà, moi j'étais dans une banque, ça se passait très bien pendant 3 ans, et puis ils m'ont mis quelqu'un d'autre, et puis ils me reposent les mêmes questions, puis ça se passe mal, et puis j'accroche pas et tout. Tandis qu'avec vous, au moins, ben, maintenant on se connaît, ça fait, je vais rester avec vous 10 ans, 12 ans, je connais vos qualités, je connais vos défauts, je sais quand j'ai un reproche à vous faire, comment je dois vous le faire. Quand vous, je trouve que vous ne me parlez pas comme vous devriez me parler, je sais aussi pourquoi vous le faites, parce que je connais vos défauts, donc je me dis, bon, allez, il est comme ça, on va l'accepter. Et donc, la construction de la relation dans le temps est un élément essentiel. Est-ce qu'on va retrouver ça dans la population féminine, ou est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être moins important dans la population féminine telle que vous le percevez?
Non, c'est complètement important. Complètement important. La confiance est clé et donc du coup, ça met du temps. Après, par contre, je pense que les femmes, si elles ne sont pas, elles se sentent pas écoutées, elles sentent qu'il y a un problème dans la relation, n'hésiteront pas à bouger, alors que peut-être qu'un homme, mettra un peu plus de temps.
D'accord. C'est vrai que c'est dans ce type de relation, il y a une forte inertie. Et comme en fin de compte aujourd'hui avec la réglementation, bouger, c'est pas une mince affaire. C'est vraiment beaucoup de papier, beaucoup de travail, beaucoup de documents. Et il y a des gens qui préfèrent rester pas si à l'aise que ça, plutôt que de faire tout le travail pour bouger sans être sûr d'être autant à l'aise, voire plus à l'aise. En ayant bougé. Eh ben, c'est sur ces belles paroles qu'on arrête ce thème. Donc, le thème, c'était la gestion de patrimoine des femmes, la spécificité de la gestion de patrimoine des femmes. Merci beaucoup, Marie-Caroline. Donc, on se revoit pour un nouveau thème dans 15 jours. Et entre-temps, ben, on aura une rediffusion comme d'habitude. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.
Merci, au revoir.
Et maintenant, on continue, on enchaîne tout de suite avec le traditionnel édito que pour beaucoup vous avez pu lire en avant-première, soit il vous a été envoyé directement si vous êtes référencé, soit sur le site de la radio. Les taux montent, l'immobilier va s'effondrer. Point d'interrogation. Mon œil, il n'y a que les enfants pour dire cela. Quand j'ai fait mon premier investissement immobilier, les taux étaient à 8% et en 2008, ils étaient à 6%. Mon père avait financé la maison dans laquelle j'ai grandi avec un taux à plus de 10% et j'ai bien grandi et la maison fut remboursée. Les taux élevés sont synonymes d'inflation et de placements courts, eux aussi à des taux élevés. Ces fameux taux monétaires que ceux qui n'avaient pas 20 ans dans les années 90 ne peuvent pas connaître. Un crédit plus élevé avec une inflation plus élevée, c'est un crédit moins cher. Un taux à 2,50% avec une inflation à 5%, en réalité, c'est un taux à moins 2,50. On est toujours dans des taux négatifs et en conséquence, dans la normalité. Attention, j'ai pas dit la normalité, j'ai dit la normalité de anormal. Donc c'est toujours anormal et les choses anormales finissent toujours par redevenir normales. Donc il va encore y avoir du mouvement. Il n'y a donc pour l'instant pas de choc de taux pour les investissements, même si on a eu un choc de taux pour les obligations qui a fait fondre leur valeur. La hausse des taux va continuer, surtout les taux courts, et l'immobilier va probablement stagner, c'est-à-dire baisser, puisqu'il devrait monter au moins de l'inflation pour être à une valeur constante. Si fin 2024, l'immobilier est au même prix au 1er janvier 2022, avec 12% d'inflation cumulée, le secteur aura baissé d'autant sans que personne ne voie la baisse. En revanche, comme toujours, certains secteurs vont monter et d'autres baisser, car le monde change et les habitudes de consommation aussi. Sans être un spécialiste, on voit que les gens recherchent plus de verdure, plus d'espace, que le nomadisme digital est en train de s'installer et va lui aussi rebattre les cartes, même s'il ne va pas révolutionner le monde. Enfin, pas tout de suite. Les points sur lesquels j'aimerais vous entendre et vous voir réagir sont: la hausse des taux de crédit est-elle vectrice de baisse du prix de l'immobilier? L'indicateur est-il le taux facial ou le taux net d'inflation? Le nomadisme digital peut-il prendre assez d'importance pour rebattre les cartes du prix de l'immobilier? Et comme d'habitude, on commence avec David. Bonsoir David. Alors David, il faut mettre votre micro. Voilà, parfait.
Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Sujet passionnant. Sur le premier point qui a retenu mon attention sur le nomadisme et est-ce que cela va changer les choses? C'est intéressant parce qu'il y a pas très longtemps, vous savez, en France, on a ce grand salon de la gestion de patrimoine qui s'appelle Patrimonia et qui m'a donné l'occasion de rencontrer pas mal de nos partenaires qui sont localisés en province. Tous me disent la même chose, c'est que avec les joies du télétravail, les prix de l'immobilier dans leur ville montent et montent à tel point que cela commence à poser un problème aux populations locales qui n'ont pas tous des salaires de Parisiens. Et la faute à qui donc? Eh bien, la faute à des Parisiens qui préfèrent finalement aller s'installer à Aix-en-Provence et qui ne sont pas choqués de payer 10 000 ou 12 000 euros du mètre carré, alors que ce n'était pas du tout les prix auxquels on était habitués dans la région. Donc, est-ce qu'il y a un impact de ce nomadisme? Oui, très clairement, et l'impact va être avec peut-être une certaine homogénéisation des prix de l'immobilier, avec des écarts Paris-Province peut-être à terme moins élevés que ceux qu'ils n'ont été par le passé. En tous les cas, c'est à mon avis quelque chose à surveiller.
Alors attendez, je vous interromps, David. Quand vous dites avec des écarts moins élevés, c'est ou il y en a un qui monte, ou il y en a un qui baisse.
Ou
Ou
les deux en
alors
même
un
temps,
monte et
voilà,
les deux en même temps. Et vous pensez
exactement.
à quoi?
Moi, j'aurais envie de dire les deux en même temps, c'est-à-dire que alors, ça peut être en termes constants, hein, c'est-à-dire que Paris arrête de monter en euros et la province continue de se renchérir. Voilà, ce qui serait l'équivalent d'une baisse. Mais ça ne serait pas étonnant de voir les loyers à Paris commencer, quoi, pas les loyers, les prix du mètre carré à Paris baisser un petit peu. Pourquoi? Et là, je touche au deuxième sujet que vous évoquiez, Bernard, c'est que la hausse des taux d'intérêt, ben, ça rend tout simplement plus difficile l'accession à la propriété, hein, puisque n'oubliez pas qu'on a eu des contraintes sur le niveau d'endettement que peut avoir un salarié ou n'importe lequel d'entre nous, il faut que le poids de la dette, des remboursements n'excède pas un tiers des revenus. Si vous avez des taux plus élevés, ben, ça fait des mensualités plus élevées et sauf à parier que votre salaire augmente au même rythme que le niveau des taux d'intérêt, ben, on risque quand même d'avoir un petit pincement. En tous les cas, ça va être moins facile que ce ne l'a été par le passé.
D'accord. Alors, on a Emmanuel de Cinti, de Sycomore et Nicolas Penel qui nous ont rejoints. Donc, bonsoir Nicolas, bonsoir Emmanuel. Voilà, j'ai vu que vous avez remis votre micro. Donc, Emmanuel, vous êtes un spécialiste
Bonsoir
des
Bernard.
obligations. Bonsoir. Vous êtes un spécialiste des obligations. Alors, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette histoire de taux? Ou si vous aussi vous voulez commencer par le nomadisme, pas de problème. On vous écoute.
Alors moi, non, je suis pas du tout un spécialiste de l'immobilier et encore moins des migrations à travers les âges et l'influence du numérique. Donc moi, je peux vous parler en revanche des obligations pour vous dire que j'ai beau remonter assez loin dans le temps, j'ai jamais vu une année comme celle que nous vivons actuellement, avec des baisses des marchés obligataires assez inédites. Et ce, quelle que soit la classe d'actifs, hein, vous prenez les obligations gouvernementales, donc les obligations sans risque, moins 16%, les obligations notées triple B, on est à moins 15 ou moins 16, les obligations à yield, on est à moins 15. Et donc cette année, en fait, dans les portefeuilles, donc le marché obligataire n'a absolument pas joué le rôle traditionnel qu'il jouait dans les années de baisse de la bourse. Et dans les pires années qu'on a connues, les obligations les mieux notées, elles avaient même en 2008, elles avaient baissé d'à peu près 4 ou 5%. Là, on est sur des baisses à deux chiffres. Donc, encore une fois, inédites. Alors, il fallait peut-être passer par là parce qu'on est passé d'un régime déflationniste, on craignait la déflation, à un régime maintenant inflationniste où on craint donc l'inflation. Donc, les banques centrales n'ont pas vu les choses arriver, donc elles ont complètement retourné leur veste en quelque sorte. Et donc, malheureusement, elles courent un petit peu derrière le calendrier et sont très en retard sur les actions à mener pour contrer l'inflation.
Et c'est ce qui explique
Bah, cette
la
baisse
baisse de la valeur.
drastique, cette baisse drastique, c'est qu'il a fallu, il faut, il a fallu changer de régime. Et donc, malheureusement, une année avec une forte hausse des taux sans risque et une forte hausse des primes de risque, ça fait un, entre guillemets, un bain de sang sur le marché obligataire.
D'accord. Et vous pensez que la hausse des taux, elle est vectrice de baisse de prix de l'immobilier ou c'est pas sûr et c'est pas une règle immuable?
Alors, toute chose égale par ailleurs, la hausse des taux, bien évidemment, fait baisser les valorisations immobilières. D'abord parce que c'est financier, hein, c'est financier. Quand vous avez un taux, ils ont un taux d'actualisation plus élevé, bah, ça fait baisser la valeur de votre actif. Et ensuite, comme le disait David, ça fait également baisser comment on dit en français, enfin le fait que les moyens et que les gens aient les moyens d'acheter, quoi. C'est-à-dire que le taux d'emprunt augmente, donc évidemment la mensualité augmente, et donc ça diminue le pouvoir d'achat. Voilà, c'est le pouvoir d'achat vis-à-vis de l'immobilier. Après, je pense que ça dépend de quel immobilier on parle. Est-ce qu'on parle de l'immobilier résidentiel? Est-ce qu'on parle de l'immobilier de rapport? Il y a des facteurs qui, il y a quand même des facteurs de soutien à l'immobilier. Sur le résidentiel, il y a l'insuffisance de logements en France. Sur l'immobilier de rapport, il y a le fait que, une fois qu'on a encaissé la baisse des prix liée à la hausse des taux, ben, on s'aperçoit que l'immobilier est quand même bien protégé contre l'inflation, justement, puisqu'il y a vous touchez des loyers indexés. Donc après, il y aura au bout d'un moment quand même des facteurs de soutien à la classe
D'accord.
d'actifs.
Donc, si j'essaye de vous résumer, la hausse des taux, c'est toujours un facteur qui fait baisser l'immobilier, mais en face, il existe d'autres facteurs qui participent à la création du prix. Les deux pouvant s'annuler, on peut très bien avoir une hausse des taux sans baisse. C'est ça?
À terme, oui.
D'accord.
À terme,
OK.
oui, mais mais après, il y a une dynamique, il faut qu'il y ait un ajustement. Ça dépend aussi du rôle des banques. Les banques sont plutôt en bonne santé aujourd'hui, donc elles vont augmenter leur taux de crédit, mais elles ne vont pas non plus l'augmenter à une vitesse énorme.
Et alors là, c'est pas. Vous me faites réagir sur une question que j'avais envie de vous poser. Je vais vous la poser tout de suite. Je voulais vous la poser plus tard, mais tout particulièrement sur les banques, parce que les banques avaient des milliards et des milliards stockés à la BCE qui leur coûtaient des sous puisque les taux étaient négatifs. Les taux sont repartis dans le positif, donc ces milliards et ces milliards vont leur rapporter des sous. Et est-ce que ça participe à cette bonne santé des banques que vous venez de dire, où les banques sont plutôt en bonne santé?
Oui, alors ça, c'est plutôt la bonne santé dans le futur, c'est-à-dire que leur santé va s'améliorer grâce à ce que vous venez de décrire. Mais par rapport à ce qui s'est passé, par exemple, la dernière crise financière, c'était 2007-2008, et qui justement, c'est une crise qui précisément est venue des banques, est venue du fait que les banques n'étaient pas en bonne santé, n'étaient pas suffisamment capitalisées pour encaisser le choc. Et en plus, elles avaient largement spéculé sur des classes d'actifs, et notamment l'immobilier. Aujourd'hui, 15 ans après, la réglementation a fortement évolué et les banques sont assez bien capitalisées. Alors, je dis pas que, vous voyez, là, ce week-end, on parlait de Crédit Suisse, qui n'est pas forcément en très bonne forme, mais de manière générale, les banques sont quand même plutôt bien capitalisées et donc plutôt à même de mieux encaisser la crise financière et sont même plutôt un facteur de soutien vis-à-vis des agents économiques en difficulté.
Très bien. Allez, on va passer à Marie-Caroline. Alors, Marie-Caroline, vous aussi, vous êtes une spécialiste des obligations, ou en tout cas, vous étiez une spécialiste des obligations. C'est dans ce métier que vous avez travaillé. Alors, je vous répète les points. La hausse des taux de crédit est-elle vectrice de baisse de l'immobilier? L'indicateur est-il le taux facial ou le taux net d'inflation? Et le nomadisme digital peut-il prendre assez d'importance pour abattre les quatre? Et si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenues aussi. Allez, on vous écoute.
Excellent. Donc, je suis d'accord avec tout le monde sur le mécanisme, en fait. Les taux montent, bah, du coup, l'immobilier baisse, c'est mécanique. Par contre, encore une fois, quand on parle de prix qui baissent, en fait, c'est sur les nouvelles transactions. Et en général, quand les prix baissent, bah, du coup, il y a moins d'achats et de ventes. Et donc, du coup, il faut savoir si le stock est vraiment représentatif bah, de tout ce qui se passe. Et encore une fois, la France est quand même assez protégée en termes de baisse. Donc, je ne dis pas qu'il ne va pas y en avoir, hein, mais ce ne sera jamais des baisses de 30% d'un coup. Pourquoi? Parce que c'est le concept des taux fixes qui existent sur 20, 25 ou 30, ou même 30 ans. Alors que dans les pays anglo-saxons, en fait, il faut renégocier son prêt tous les 2, 3 ou même 5 ans. Et donc, en fait, ça impacte les nouvelles transactions, puisque comme en France, les coûts de mensualité sont plus élevés, etc. Mais ça impacte aussi le stock, dans le sens où, quand donc on a déjà sa maison et on doit se refinancer, en fait, la maison va être réévaluée. Et donc, en fait, si elle était valorisée à 100, on avait 90 de dette, ça passait. Mais si le prix tombe à 90, bah du coup, maintenant, on a 100% de dette et ça, c'est possiblement plus possible. Donc, en fait, il y a vraiment l'effet ciseau dans les pays anglo-saxons qui n'existe pas dans les pays comme la France. Et la deuxième chose sur l'immobilier, c'est la part des dépenses de logement dans le budget des Français qui arrête pas de monter. Donc, on parle souvent de c'est pas la première fois qu'il y a des taux qui sont assez élevés, etc. Certes, j'étais sans doute trop jeune pour les connaître, mais évidemment, c'était là. N'empêche qu'en 1960, l'immobilier, ça représentait 9% du budget des ménages. En 80, 1980, c'était 16%. Et maintenant, on en est à 23%. Donc, plus l'immobilier prend une, enfin, plus l'immobilier augmente, sachant qu'il est déjà de plus en plus important dans le budget, bah, ça fait d'autant plus l'effet. Donc après, est-ce que c'est une question de taux facial ou taux d'inflation, taux net d'inflation? Je pense que ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous voulez faire avec l'immobilier. Est-ce que c'est de l'immobilier pour vivre dedans? Dans ce cas-là, bah, juste le taux facial, ça suffit. Par contre, si c'est pour investir, bah, du coup, il faudrait le taux net d'inflation, puisqu'encore une fois, c'est le coût d'opportunité. Est-ce que je peux investir dans l'immobilier ou est-ce que je ferais mieux d'investir ailleurs si le but c'est que ça rapporte? Et puis la dernière question, le nomadisme. Du coup, moi j'ai pas l'impression que ce soit que du nomadisme, mais aussi parce que le nomadisme en fait, le concept c'est de bouger par exemple tous les 3 mois, tous les 6 mois de pays, mais il y a juste un concept maintenant qui s'appelle le full remote où en fait on est détaché. Et on travaille à 100% de notre temps dans un pays spécifique, donc on ne bouge plus. N'empêche qu'on n'est pas embauché dans le pays où on habite. Et donc, par exemple, moi, j'habite Lisbonne et je n'ai pas une seule connaissance qui a un contrat portugais, donc sur une quarantaine de personnes. Et donc, ce n'est pas nécessairement avoir des contrats expats avec des packages spécifiques, mais c'est vraiment avoir une entreprise américaine, anglaise, française qui embauche et du coup qui a des conditions qui ne dépendent pas en fait de là où on habite. Et donc pour
Alors
moi,
attendez,
la première...
je vais vous interrompre. Là, je vais vous interrompre parce que vous avez dit quelque chose d'intéressant. Le nomadisme, c'était de bouger d'un endroit à un autre et d'aller passer 3 mois là, 6 mois là, et ainsi de suite, et de faire son travail. Maintenant, vous parlez du full remote, qui est de rester dans un lieu et de faire son travail de lieu. Et alors là, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que c'est pas déjà la preuve que ça a rebattu les quatre? Parce que s'il y a du full remote, c'est parce que les politiques, donc les exécutifs, ont changé les lois et ont permis à des gens de rester, de s'installer. Donc nous, en Europe, on s'en rend pas trop bien compte parce qu'on fait un peu ce qu'on veut tant qu'on reste dans l'Europe. Mais la Thaïlande a mis un visa spécial, le Maroc a mis un visa spécial. Et j'ai pas tous les pays en tête, mais les uns après les autres, ils mettent des visas spéciaux pour qu'en fin de compte, un étranger ou qui travaille vienne, s'installe, travaille. Dubaï aussi a mis un visa spécial et puisse rester avec son visa de travailleur digital 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans dans le pays, ce qui n'était pas du tout le cas avant, parce que les nomades, ils trichaient et ils servaient souvent de visa touriste pour rester dans le pays. Donc, est-ce que c'est pas déjà, oui, les cartes ont déjà été rebattues et ça va continuer parce que quand on joue aux cartes, eh ben, on n'arrête pas de les battre.
Les propositions existent. Après, elles sont encore. On en est encore qu'au début. Il y a encore énormément de boîtes qui se posent des questions, de pays qui se demandent comment attirer, etc., ce genre de profil. N'empêche qu'avec le marché de l'emploi qui est quand même assez tendu, où quand on cherche des profils bien spécifiques, bien qualifiés, clairement, il n'y en a pas, il n'y en a pas assez. Donc, du coup, avoir de la flexibilité, ça va vraiment permettre aux entreprises ou aux pays d'ailleurs d'attirer ce genre de profil, donc avoir plus de taxes, etc., etc. Donc, après, donc oui, ça existe. Pour moi, il y a encore de la marge. Et la grande question, et c'était un peu la question en 2021 avec les géants de la tech dans les Silicon Valley qui se demandaient si le fait d'avoir des employés qui n'habitent plus du coup dans la Silicon Valley où c'est hyper cher les logements, du coup, est-ce que leur paye pardon, va être impactée? Donc du coup, c'est le concept de la location-based pay. Et du coup, il y a Facebook, Stripe et autres géants qui justement impactent la paye en fonction de la localisation de son logement. Donc ça, ce n'est pas vraiment encore arrivé en France, mais du coup, si on a choisi de s'installer à Aix-en-Provence, bah, du coup, si la paye baisse, voilà.
Donc, il faut dire à son patron qu'on va s'installer à Tokyo et aller vivre à Lisbonne, c'est ça? Ok, allez, c'est sur ce super sourire qu'on vous quitte, Marie-Caroline, et c'est maintenant à David Calfon. Donc, David, si vous voulez faire une petite conclusion, faites-la. Et si vous voulez démarrer tout de suite sur votre point à marché, on vous écoute.
Je vais démarrer directement sur mon point marché. Bonjour à tous et une fois n'est pas coutume, je vais rendre hommage à tous les adeptes de la procrastination et vous faire l'éloge de ne rien faire. Comme vous le constatez, rien ne va sur les marchés financiers. On a un troisième trimestre qui s'est achevé sur des pertes significatives. Depuis le début de l'année, l'indice des actions américaines, le S&P 500, a perdu 24%, le Nasdaq a chuté de 32%, les bourses de la zone euro ont chuté en moyenne de 21% et les marchés émergents reculent eux aussi en moyenne de 15%. À l'origine de ces baisses, toujours et encore, le resserrement de l'ensemble des politiques monétaires au niveau mondial. Les banquiers centraux sont unanimes, il vaut mieux tuer la croissance économique et se débarrasser de l'inflation que maintenir le niveau de croissance actuel au risque de voir l'inflation se propager de manière incontrôlée. Pour la frange de la population la moins aisée, ce phénomène inflationniste est central, car il influe sur leur vie, notamment au travers de leur pouvoir d'achat. Rappelons-nous, s'il en est besoin, que les printemps arabes, la montée du fascisme, du nazisme, sont tous des phénomènes qui trouvent leur origine dans des poussées inflationnistes. On comprend aisément pourquoi les banques centrales font de la lutte contre l'inflation une priorité. Alors, soit dit en passant, la stabilité des prix a toujours été le mandat premier de la Fed et de la Banque centrale européenne. En un mot, pas de surprise à avoir de ce côté-là. Si le marché des actions est en repli significatif, les marchés obligataires n'offrent aucun soutien. Depuis le début de l'année, les taux à 10 ans américains et allemands ont progressé de 2,3%. Les taux à 10 ans français ont progressé de 2,5%. Souvenez-vous, lorsque les taux d'intérêt montent, la valeur des obligations chute. Ainsi, la valeur des obligations des entreprises les mieux notées en Europe chute depuis le début de l'année de 15%, des performances proches de celles des marchés actions. Alors, si toutes les classes d'actifs chutent en même temps, à quoi servent les recommandations des experts de bien diversifier votre portefeuille? Pour le moment, pas grand-chose. Mais ce n'est qu'un épisode désagréable et heureusement temporaire. C'est ce que nous appelons dans notre jargon un choc de corrélation, qui renvoie toutes les classes d'actifs dans le même sens. Nous avons déjà expérimenté ce phénomène au mois de juin dernier et s'en était suivi un rebond significatif des marchés en juillet et en août. Est-ce à dire que les marchés vont rebondir à court terme? Bien heureux celui qui peut le prédire avec certitude. Examinons toutefois les faits. Il n'y a rarement eu autant d'investisseurs négatifs sur les marchés. La récession est anticipée par tous. Personne ne s'attend à une économie florissante sur les 12 prochains mois. Les valorisations des marchés sont désormais en dessous des moyennes de celles de ces dernières années, laissant croire qu'une partie des révisions à la baisse des bénéfices des entreprises est déjà dans les cours. La volatilité, l'indice de la peur, est revenue sur ses niveaux des précédentes phases de stress de cette année. Alors, est-ce à ce moment qu'on jette l'éponge et qu'on liquide son portefeuille boursier? Certainement pas. Il est urgent d'attendre et important de ne rien faire. Le prochain mouvement sera d'acheter. Quoi ? En premier lieu, des obligations, car les taux offriront des rendements auxquels nous ne sommes plus habitués. En second, des actions qui emmagasinent pour le moment un potentiel de rebond significatif. Le signal à attendre, un fléchissement du discours des banquiers centraux. Discours que nous surveillerons pour votre compte et que nous ne manquerons pas d'analyser dans nos prochaines chroniques des marchés. La question du jour que je vais poser à mes confrères est de savoir s'ils me rejoignent dans mon mouvement de procrastination et si eux aussi pensent qu'il vaut mieux temporiser dans les décisions d'allocation d'actifs. Bernard, qu'en pensez-vous ?
Alors, dans les allocations d'actifs, je pense qu'il faut rester très calme et juste se concentrer sur certains petits sujets qui peuvent faire un peu bouger. On voit bien que, moi, il y a quelque chose que j'ai toujours dit, c'est que quand on regarde les résultats à court terme et qu'on compare les gérants à court terme, un gérant qui réussit mieux, c'est qui comprend mieux ce qui est en train de se passer. Et souvent, on voit des fonds avec d'excellents résultats sur le long terme et des résultats assez décevants sur le court terme. Et on peut en tirer la conclusion, pas toujours, mais certaines fois, on peut en tirer la conclusion que le gérant comprend moins ce qui se passe et donc est moins à l'aise. Et donc, il y a peut-être quelques arbitrages à faire, mais je suis d'accord avec vous, c'est sûrement pas le moment de battre la retraite parce qu'on va se faire… On va se faire laminer, on n'osera pas revenir et tout. Et je suis aussi d'accord avec vous comme quoi le prochain mouvement est un mouvement d'achat. Et je peux même vous dire quand sera le signal d'achat. Quand 95% des gens auront peur d'acheter, c'est le bon signal. C'est toujours la même chose. Voilà. Même nous, les professionnels, on téléphone à nos clients, on leur dit il faut acheter. Le client il dit oh, vous croyez ? On dit ben je sais pas trop et on finit par pas acheter. C'est le bon signal et il revient de manière régulière. Par contre, il y a un sujet sur lequel je voudrais rebondir. Vous avez dit, ce sera le moment d'acheter des obligations. Alors, c'est vrai que quand la baisse des taux sera finie, les obligations ne baisseront plus, ne se réajusteront plus à leur juste prix du fait de la baisse des taux. Mais quand la baisse des taux sera finie, baisser des taux, c'est un petit peu comme mettre des coups de bâton dans les jambes à un coureur.
Donc la hausse des taux, Bernard.
Oui, la hausse des taux, pardon. Quand la hausse des taux sera finie, donc il va y avoir des dégâts dans le monde de l'économie et dans le monde des entreprises et dans le monde des affaires. Et donc à ce moment-là, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une baisse plus une baisse des obligations, mais une baisse de beaucoup d'obligations parce que la qualité de l'entreprise qui les a émises a baissé du fait de la baisse de la croissance. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un deuxième mouvement ? Alors, cette fois-ci, ce mouvement, il serait très différencié, c'est-à-dire il ne serait pas sur l'ensemble de la classe, mais il pourrait quand même représenter des craintes sur les fonds qui eux aussi, sont diversifiés. Et la deuxième réflexion, c'est est-ce qu'il n'y a pas une vraie frontière à faire entre les obligations plutôt courtes et les obligations plutôt longues, où il y a vraiment des manières de se comporter totalement différentes, puisqu'en fin de compte, il y en a où on voit le bout et il y en a où on est loin de voir le bout. Voilà, donc ça c'est un petit peu mes réflexions. Je vous laisse répondre là-dessus en une minute et après on passe à Emmanuel de City et on va voir lui qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus. Je pense que comme c'est plus sa spécialité, il va avoir beaucoup à dire.
Tout à fait. Alors ce que vous mentionnez, Bernard, c'est tout simplement, ni plus ni moins, que l'augmentation des taux de défaut. Hein, ce risque spécifique, donc ce qu'on nous dit, c'est qu'au début, on a un risque macro, hein, qui est la hausse des taux, et puis au bout d'un moment, on voit les cadavres qui remontent à la surface les uns après les autres, c'est-à-dire les sociétés qui font défaut. Alors, les marchés nous donnent quand même une petite réponse là-dessus. C'est que le niveau des taux actuels, à partir du niveau donc, de rendement des obligations d'entreprise, on est capable de calculer le taux de défaut implicite. Et ce taux de défaut implicite, c'est-à-dire le taux de défaut qui est intégré par les marchés financiers. De mémoire, nos amis de Sycomore préciseront, si je dis trop de bêtises, mais de mémoire, on est en taux de défaut implicite autour de 10% sur les emprunts d'entreprise de notation BB. Au plus fort de la crise de 2008, hein, donc je prends une référence qui est assez qui est dans les esprits de tout le monde. De mémoire, le taux de défaut réalisé, je dis bien réalisé, était monté autour de 7%. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, c'est que les niveaux de spread et les niveaux de rendement des entreprises, des obligations d'entreprise, intègrent dans les cours des taux de défaut nettement supérieurs à ce que l'on a constaté dans les crises les plus fortes. Donc, ça voudrait dire que la crise qui est devant nous ou qui est que nous sommes en train de vivre, elle serait encore plus grave que celle qu'on a eue en 2008. De mon point de vue, j'ai du mal à être de cet avis et c'est pour cela que je trouve qu'il y a un couple rendement-risque dans les emprunts d'entreprise qui est très intéressant, surtout si on reste court, puisque si on parle de récession, la récession, elle va arriver certainement au cours de l'année 2023 avec des effets qui vont se répercuter jusqu'en 2024-2025. J'ai envie de dire, d'ici à 2024, il n'y a pas vraiment de risque de voir les taux de défaut exploser à la hausse. Après, c'est peut-être une question un petit peu différente. Voilà.
OK, alors on passe à Emmanuel de Cinti. Quel est votre avis là-dessus?
Alors, sur les défauts, parce que là, vous avez dit beaucoup de choses, fort intéressantes d'ailleurs, et sur lesquelles je suis globalement assez d'accord. De manière générale, en fait, les marchés financiers savent très très mal anticiper les taux de défaut futurs. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, si vous prenez la classe d'actifs au rendement européen, donc c'est une classe d'actifs qui produit un rendement compris entre 7 et 8 %. Et donc, effectivement, avec des taux sans risque correspondant à la maturité du haut rendement, donc compris entre 2 et 3%, vous avez en gros, effectivement, vous avez un spread moyen, disons, de 5% et donc des anticipations de taux de défaut sur ce type de classe d'actifs. Alors, c'est un petit peu moins que ce que vous avez dit, David. Moi, je pense que c'est-à-dire que le marché mécaniquement anticipe des taux de défaut de 7 à 8%, ce qui est déjà énorme. Mais surtout, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'ils anticipent des taux de défaut de 7 à 8% par an pendant 4 ans consécutives. Ce qui ne s'est jamais, absolument jamais produit au cours de la crise financière donc de 2007-2008, les taux de défaut annualisés sont montés jusqu'à 10-11%, mais pendant 2 ou 3 trimestres. Et après, ils ont reflué très, très rapidement. Donc, prendre une hypothèse où les taux de défaut sont à ces niveaux anticipés de 7-8% pendant 4 années consécutives, c'est un scénario qui n'est pas raisonnable.
Alors, si ce scénario n'est pas raisonnable, ça veut dire
automatiquement
ça va monter.
Non, mais ça veut dire qu'en fait, dans les primes de risque de crédit, en fait, les primes de risque de crédit, effectivement, elles contiennent deux choses principalement. La première, c'est les anticipations de taux de défaut. Donc, évidemment, ces anticipations de taux de défaut ont augmenté puisque les gens se sentent bien qu'on est en train de rentrer en récession, qu'il va y avoir plus de difficultés. Mais en fait, il y a une autre composante qui est la prime de liquidité. Et la prime de liquidité, c'est quoi? C'est en gros, on récompense des investisseurs courageux qui entrent aujourd'hui dans une classe d'actifs qui est considérée comme étant risquée. Et en plus, on leur demande de rentrer pendant une période la durée moyenne du marché, par exemple, au rendement, en gros, c'est 4 ans. Et donc, on leur demande de rester pendant 4 ans et de voir un petit peu et d'attendre ce qui se passera finalement à l'arrivée. Donc, vous avez en fait une prime de liquidité qui est très, très généreuse dans les périodes de volatilité et d'aversion au risque telles que nous les connaissons actuellement.
Que vous me dites, ça me fait penser au solde. Donc, c'est le moment d'acheter? C'est ça, c'est parce qu'on solde, on met une prime de liquidité. Donc, en fin de compte, en mettant prime de liquidité, on mécaniquement, on fait baisser les prix.
Il y a plus de gens qui empruntent la sortie de secours que de gens qui veulent rentrer. Donc, effectivement, la prime de risque, la prime de liquidité s'ajuste en conséquence.
D'accord. Allez, on va demander à Marie-Caroline de réagir sur ce point précis de l'anticipation des taux de défaut. Donc, tant ce que David que Emmanuel ont dit, c'est que l'anticipation des taux de défaut, c'est extrêmement compliqué, c'est un exercice très, très difficile. Comme c'est un exercice très difficile dans les périodes de stress, alors ça, c'est moi qui le rajoute, on a toujours tendance à le surévaluer. Aujourd'hui, tant David qu'Emmanuel considèrent qu'il est surévalué, et comme il est surévalué, il donne une prime négative ou positive, suivant de quelle manière on se voit, mais qui fait que les obligations sont plus basses que ce qu'elles devraient être, et donc ça peut être un moment d'acheter, et toujours entre guillemets, c'est pas un conseil d'achat, il faut toujours se méfier d'acheter trop tôt, parce qu'il y a la première jet de solde, et après, n'oubliez pas qu'il y a les deuxièmes soldes aussi, où on fait un rabais supplémentaire. Donc, il faut toujours faire attention. Marie-Caroline, vous en pensez quoi?
Bah, clairement, c'est le timing de marché, c'est juste une science impossible à toucher. Après, on sait tous que quand il y a des périodes de crise, le marché baisse beaucoup plus que dans les périodes de hausse en termes d'intensité et de voilà. Donc, du coup, est-ce que c'est le moment de revenir sur le marché? Encore une fois, hyper dur à savoir. N'empêche que si le marché a tant baissé et continue de baisser, clairement, c'est mieux de rentrer maintenant qu'il y a 3 semaines, quoi. Donc ouais, complexe à savoir. Et après, j'aime bien le concept de procrastination. Pour être honnête, en ce moment, voilà, c'est un peu, on marche sur des œufs, on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est possible que ça retombe, c'est possible que voilà, les banques centrales, en fait, ont encore beaucoup de communication à faire. Et pareil au niveau des gouvernements, la Liz Truss au Royaume-Uni, pardon, a supprimé une partie du package qu'elle avait annoncé la semaine dernière, vu la réaction des marchés. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de... Ouais, beaucoup de news, etc., qu'on ne maîtrise pas encore. Donc, procrastination, voilà, on laisse un peu la tempête venir. Et puis, mais il faut être prêt parce que évidemment, on est sur des niveaux qui sont mieux qu'avant.
Très bien. Alors, je vais reposer une question à David et après, on va passer à Julien qui vient nous rejoindre. Donc, ça fait plusieurs émissions où on parle des obligations, on parle des taux et on parle toujours un peu de votre fonds chez Senso, qui est un fonds obligataire qui s'arrête en 2024. Et on essaye de voir un petit peu comment il bouge. Donc, ces derniers 15 jours, la pression sur les taux, ça a dû le faire un petit peu baisser et le fait de se rapprocher de l'échéance finale, ça a dû le faire un petit peu monter. Et la vision des entreprises que vous avez sélectionnées, ça a pu le faire baisser ou le faire monter. Comment il s'est comporté dans les 15 derniers jours, ce fonds?
Alors, globalement, le fonds a quand même souffert de l'aversion au risque, mais en relatif par rapport à d'autres fonds obligataires, il a plutôt mieux résisté parce que justement, il bénéficie de cette durée de vie restant à courir qui est courte et qui est plus courte que les autres. Nous, le seul constat que l'on fait, c'est que la courbe de rendement de ces obligations d'entreprise, c'est une courbe qui est assez plate. Entendez par là que vous alliez à 2 ans d'échéance ou que vous alliez à 4 ans, 5 ans, 6 ans d'échéance, l'écart de rendement que vous allez avoir, il existe, mais il est somme toute assez faible par rapport au risque supplémentaire que vous prenez. Donc, c'est pour cela que nous nous sommes interrogés sur l'opportunité de transformer notre fonds 2024 en un 2028. Et pour le moment, on a répondu par la négative en nous disant qu'il y avait encore, puisqu'on est maintenant autour de 7% de rendement sur du 2024, c'est déjà très confortable et c'est un rapport rendement-risque qui est extrêmement sympathique et que ça nous, on pense que c'est une vraie opportunité pour nos clients. Je vous dis, plutôt que d'aller sur du 2028 et pour aller gratter peut-être 1% de rendement supplémentaire.
Est-ce que ce rendement à 7%, c'est le rendement le plus bas de l'année et donc on est quand même dans le creux de la crise?
Le plus haut de l'année.
Hein. Ouais, c'est le rendement, pardon, le plus bas de l'année, donc la valeur du produit la plus basse de l'année. Ou est-ce que au moment de la tension au printemps, je crois, où ça a été vraiment très très tendu, il a été encore plus haut?
Alors, je crois qu'au mois de juin, de mémoire, fin juin, on était sur des niveaux un peu plus tendus que là où on est actuellement. Donc, de mémoire, la valeur liquidative était un peu au-dessus des niveaux actuels, pas de beaucoup, hein, que là où on est actuellement. Donc, je
En
dirais
revanche,
que 7%, c'est à peu près le taux maximum qu'on ait vu sur cette année sur ce fonds.
et en 2020, quand il y a eu les problématiques du Covid, c'est monté plus haut, n'est-ce pas?
Oui. Il fallait être très rapide parce que ça n'a pas duré longtemps. Mais oui, on a eu des pics sur des niveaux à deux chiffres.
Ah, sur des niveaux à deux chiffres.
Oui, je crois de mémoire qu'on a dû taper les 10% assez furtivement. Comme je le disais, il fallait être vif et rapide. Je rappelle qu'à cette époque, on avait tous d'autres préoccupations. Donc, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui en ont profité, mais on a eu une pointe assez sur des taux de rendement assez élevés.
Bon. OK, alors on va passer à Julien. Alors, bonsoir Julien. Donc, Julien, vous êtes
bonsoir.
Ingénieur patrimonial et juriste chez Wellins, compagnie d'assurance qu'on connaît bien ici à Luxembourg. J'ai envie de dire, les assureurs, c'est un peu les rois des obligations. Et il y en a un petit peu de tous les côtés. Bon, il y a le célèbre fonds euro qui a été abandonné chez vous maintenant, mais il y a aussi moult fonds obligataires et moult manières de rentrer. Donc, tous ces mouvements de taux sur les mouvements obligataires, comment est-ce que vous voyez ça chez vous? Et est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que vous voyez au niveau des souscriptions, il y a un retour des investisseurs et un retour des épargnants sur les obligations ou pas encore? Enfin, quelle est un peu votre analyse sur cette corrélation taux-obligation?
Oui, pas vraiment. Bah, bonsoir à tous. Effectivement, vous avez raison, nous, chez Willins, en tout cas, comme d'autres compagnies d'assurance, on a oublié le fonds euro. En tout cas, on n'a pas de fonds obligataires, ce fameux fonds euro que vous évoquiez. On n'a pas, en tout cas, quel que soit le contexte obligataire pour l'instant, on n'a pas vraiment velléité éventuellement d'en ouvrir de nouveau ou de remettre ça au goût du jour. Après, comme vous l'avez dit, sur les différentes souscriptions qu'on a, on ne retrouve pas pour l'instant une appétence des souscripteurs sur les marchés obligataires. Alors, on en a quelques-uns, mais c'est vrai que, alors, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais les gérants avec qui on travaille et les clients qui viennent nous voir ont plus une appétence sur les marchés actions. Alors, je ne sais pas, c'est vrai que le marché obligataire est peut-être un petit marché un petit peu plus technique à suivre. Le marché action, c'est vrai que le quidam de base comprend assez rapidement son fonctionnement. Le marché obligataire fonctionnant à l'inverse de l'augmentation ou de la baisse des taux d'intérêt est peut-être un petit peu plus compliqué à suivre. Mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas vraiment de retour. En tout cas, on ne peut pas dire qu'on a des prospects qui nous appellent en disant bah, « Écoutez, trouvez-moi un bon gérant obligataire, trouvez-moi un bon fonds obligataire ou référencez-moi un fonds obligataire parce que je veux me remettre sur de l'obligation ». Peut-être à tort, ça je ne sais pas, mais en tout cas, tout le monde reste encore assez focalisé à action pour le moment.
Tout le monde reste continuellement à l'achat des actions?
Focalisé, je ne sais pas, mais c'est vrai que…
En tout cas, c'est plus chez vous.
Oui, effectivement, chez nous, on a plus des demandes sur les actions. On a plus des demandes des clients qui vont nous poser la question. Alors nous, on est qu'assureurs, donc c'est évident qu'on n'a pas… On n'a pas le on ne fait pas de la gestion d'actifs, hein, qu'elle soit action ou obligation. Mais j'ai l'impression que peut-être sur une clientèle plus avertie, serait plus versée sur les opportunités ou pas de se positionner sur le marché obligataire en ce moment. Mais c'est vrai que les grosses interrogations que j'entends lors d'event ou autres avec des clients finaux, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se repositionne sur les marchés actions? Est-ce que le point bas, il est sur les marchés actions? J'ai l'impression, mais c'est qu'une impression, que la classe obligataire, parfois, est un petit peu oubliée, en fait.
Alors, ça c'est une bonne remarque, ça. Et je vais poser la question à Nicolas. Non, pardon, à Emmanuel. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a tellement eu peu l'habitude d'avoir des rebonds haussiers sur les obligations, puisqu'il y a une continuité de la baisse des taux, que les gens, tout simplement, ne savent plus que aussi sur une obligation, on peut acheter à bon compte et vendre. Alors que sur les actions, on a vraiment l'habitude des cracks et des fortes baisses, et on se dit, tiens, ça rebaisse encore, je vais serrer les dents et je vais acheter. Mais on n'a plus l'habitude et on ne sait pas que aussi un fonds obligataire pourrait rebondir de 15, 17, 19% l'année prochaine. Vous en pensez quoi, Emmanuel?
La classe d'actifs obligataires, effectivement, elle est beaucoup plus technique. D'ailleurs, à l'empreinte souvent aux mathématiques, quand vous baissez une année de 20%, pour revenir au même niveau, c'est-à-dire pour revenir à 100, bah, ça sous-tend une hausse de 25% exactement. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. Enfin, c'est aujourd'hui, en fait, on est en train d'acheter à entre 80 et 85 du pair des obligations qui ont été émises il y a 2 ans. Donc, des obligations qui ont été émises à 100. Aujourd'hui, vous les achetez 85. Elles ont un coupon à 4%. Et bah, si l'émetteur ne fait pas défaut, et bah, vous allez gagner la différence entre 85 et 100, qui est le prix de remboursement, et vous allez toucher le coupon de 4 ou 5 pendant 3 ou 4 ans. Donc, vous faites le calcul, ça vous fait une très belle performance sur les 3 ou 4 prochaines années.
Ça veut dire
sachant que le...
Allez-y, je vous en
prie. Sachant que le prix des obligations réagit assez couramment, plus rapidement que le marché boursier. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'au bout d'un moment, justement, les obligations, et notamment les obligations d'entreprise, sont soumises à une force de rappel qui est énorme, parce que du coup, vous avez ce qu'on appelle le portage, qui est le fait que si vous divisez votre coupon par le prix auquel vous avez acheté cette obligation, le portage est tel que, en fait, à un moment donné, l'obligation, elle ne peut plus baisser. Et du coup, elle se met à remonter.
D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme le gérant, il est un peu pieds et poings liés devant les taux, ce n'est pas lui qui les décide, il ne fait que les subir. Pour savoir dans quel fonds d'obligation on va investir, ou pour nous les professionnels, on va conseiller d'investir, ce qu'il faut, c'est se renseigner sur les obligations qui constituent le fonds et les risques qu'elles pourraient avoir de faire défaut total ou partiel, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Oui, oui. Et effectivement, ça, se renseigner sur le contenu des fonds obligataires, ça demande un petit effort supplémentaire par rapport à un fonds action. Un fonds action, voilà, on met du total, dans un fonds obligataire, on met alors certes des instruments émis par des sociétés connues, mais après qui ont des maturités, qui peuvent avoir des niveaux de ce qu'on appelle de seniorité, c'est-à-dire que vous pouvez avoir de la dette classique, normale, mais après, vous pouvez avoir aussi de la dette subordonnée, vous pouvez avoir des obligations qui n'ont pas d'échéance, mais qui peuvent être rappelées selon un calendrier prédéfini. Enfin, en fait, ça devient très, très vite beaucoup plus technique que dans un fonds action.
D'accord. Alors, on va revenir à David Calfon. Je vais vous poser la même question. Je vais vous laisser conclure sur tout ce que vous avez entendu un petit peu où on rebondissait sur votre point marché. Et après, on reviendra à Emmanuel qui nous parlera de Sycomore et de ses fonds. Donc, David, par rapport à ça, donc aujourd'hui, sur votre fonds qui a un rendement à 7%, il gardera ses 7% de rendement à condition que vous ayez zéro défaut. Donc, savoir si on va venir chez vous ou pas venir chez vous, c'est pouvoir anticiper combien vous allez avoir de défauts. Est-ce que c'est des informations que vous publiez ? Est-ce que tous les 15 jours, vous faites une réunion en disant, voilà, on risque tant de défauts. Donc, une réunion en interne, je suis presque sûr que votre réponse, ça va être oui. Mais est-ce que vous publiez l'information ou vous publiez les conclusions de cette réunion? Est-ce que c'est accessible à un client qui voudrait éventuellement investir?
Alors, nous avons effectivement un suivi quasi quotidien des émetteurs que nous avons en portefeuille, et tout cela est matérialisé par une réunion hebdomadaire qui revoit tous les crédits auxquels nous sommes exposés. Maintenant, nous ne publions pas les résultats de ces études. En revanche, ce que nous publions, et ce qui est un indicateur important, c'est, vous avez une manière assez simple de mitiger le risque de défaut, c'est de répartir votre portefeuille sur un nombre de lignes significatif. Et c'est ce que nous avons fait dans notre fonds Objectif Durable 2024. Nous avons actuellement 124 lignes en portefeuille. Et en plus, nous avons mis en place, donc ça, le nombre de lignes en portefeuille, ça, c'est accessible à tous. Et nous avons mis en place des règles de construction de portefeuille qui sont de nature à rassurer nos investisseurs, puisque plus le risque d'un émetteur est élevé, c'est-à-dire plus sa notation de crédit est faible, plus le poids dans notre portefeuille est faible. Donc, plus le risque est élevé, plus le poids est faible, ce qui nous permet de nous dire que même si on devait avoir un ou deux ou trois défauts dans le portefeuille, ben, finalement, ça serait sur des lignes à 0,3, 0,4, 0,5% du portefeuille, Et donc finalement, par rapport aux 7% de rendement, ça serait assez facilement absorbé. Encore une fois, les 7%, c'est un taux de rendement annuel, alors que si on parle de 4 ou 5 défauts, on ne parle pas de 4 ou 5 défauts par an, on parle de 4 ou 5 défauts dans le portefeuille. Donc voilà, on communique effectivement les pondérations, on communique le nombre de lignes. En revanche, la probabilité de défaut, en fait, vous pouvez la déduire en prenant en compte la composition du portefeuille hein, par note. Nous, comme vous le savez, dans notre fonds, on s'interdit de descendre en dessous de simple B. Donc là aussi, c'est un petit peu le gage de sécurité que nous offrons. Mais après, spécifiquement, de dire, vous savez, le problème du défaut d'un émetteur, c'est que vous avez plein de variables. Tout d'abord, vous pouvez avoir un émetteur qui est temporairement en difficulté. Ça ne veut pas dire pour autant qu'à l'échéance, il ne peut pas vous rembourser. Ça veut dire peut-être qu'il passe par une phase difficile. Et deuxièmement, il y a aussi une chose qui est importante, c'est le fameux taux de recovery. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait défaut, ben vous êtes quand même créancier de l'entreprise. Et normalement, ben, si allons au cas extrême, on envisage la liquidation de l'entreprise. Eh bien, vous avez quand même malgré tout souvent des actifs dans cette société qui peuvent vous permettre de récupérer non pas la totalité, mais une partie, une fraction de votre prêt. Donc ça aussi, ça fait que la notion de défaut elle-même, elle est finalement assez difficile à appréhender, je dirais, pour le public non averti. Et c'est pour cela que nous ne communiquons pas dessus, mais en revanche, comme je vous ai dit, voilà, on a mis en place un certain nombre de garde-fous qui permettent à nos investisseurs de se sentir en relative sécurité sur ce fonds.
OK, merci beaucoup David. Et c'est maintenant au tour d'Emmanuel de Sinti qui va nous parler de Sycomore et du fonds qu'il gère ou des fonds qu'il gère. C'est à vous Emmanuel.
Alors bon, Sycomore donc fait du donc c'était plutôt connu comme étant une maison action, fonds action. Il se trouve que depuis 2010, on gère des mandats obligataires et on a lancé nos premiers fonds ouverts sur la classe d'actifs en 2012, donc il y a exactement 10 ans. Et donc c'est la même équipe qui gère ces fonds depuis l'origine, avec un process donc qui s'est amélioré au fil des ans. Et donc aujourd'hui, ben nous rejoignons la cohorte des sociétés de gestion qui lancent leurs fonds à échéance. Ça faisait longtemps qu'on y pensait, mais là on trouve qu'il y a un point d'entrée qui nous paraît particulièrement attrayant, sachant que comme il a été dit en 2020, en fait la baisse a été suivie d'une hausse trop rapide et ne nous a pas laissé le temps de lancer un fonds à échéance à l'époque. Donc aujourd'hui on lance un fonds, alors 2020, échéance 2026, alors 2026. C'est un compromis, c'est un compromis parce que, comme le disait David, effectivement, il y a eu un certain, alors c'est un peu technique, mais un certain aplatissement des courbes de crédit. Et en même temps, bon, bah, évidemment, on veut pouvoir offrir un rendement visible pendant une période suffisante pour que les gens, pour que ça décide les gens à changer de classe d'actif, par exemple, de sortir d'un contrat en euros pour aller sur une autre proposition d'investissement. Alors, je crois que tout le monde est familiarisé avec la notion de fonds à échéance. Donc, en gros, on construit un portefeuille centré sur l'année 2026. Donc, c'est un portefeuille à 4 ans. Et donc, il y a une sensibilité assez modérée puisqu'elle est légèrement supérieure à 3.
Alors, aujourd'hui, je vous interromps. Oui. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est la sensibilité?
Alors, la sensibilité, c'est la variation du prix d'une obligation pour une hausse de taux d'intérêt de 1%. Donc, une sensibilité de 3 veut dire que votre obligation va baisser de 3% si les taux d'intérêt montent de 1%.
C'est vrai dans l'autre sens aussi? Si les taux d'intérêt baissent de 1%, elle montera 3%.
Après, je ne veux pas vous noyer sous les mathématiques, parce que c'est des mathématiques. Hein. En fait, la sensibilité, c'est la dérivée du prix de l'obligation par rapport au taux. En fait, cette sensibilité, elle n'est valable que pour une variation de taux relativement faible. En fait, quand vous avez des variations de taux qui prennent de l'ampleur, du coup, les obligations en fait, amortissent à la hausse comme à la baisse ces variations. En fait. Mais bon, après, c'est un peu ce qu'on appelle la convexité des obligations. Mais là, on rentre vraiment dans la technique. Donc, sensibilité modérée. Aujourd'hui, c'est un portefeuille qui offre un rendement pratiquement à 7%, un peu moins de 7%. Et c'est un portefeuille alors qui est positionné sur le haut rendement, évidemment, puisque pour avoir un peu de rendement, il faut quand même prendre un petit peu de risque. Mais sur le haut rendement, en fait, on l'a délibérément positionné de façon défensive. Ce qui fait qu'en fait, le socle du portefeuille est constitué de noms qui sont notés WB. WB étant la meilleure note obtenue par un émetteur high yield. Émetteur high yield, ça va de triple C à WB. Et donc, le WB est la meilleure note. Donc, le WB ou assimilé, ça va représenter à peu près 60% du portefeuille. Et aujourd'hui, donc, on commence même à trouver des opportunités d'investissement sur le triple B, c'est-à-dire sur des obligations catégories d'investissement et sur des secteurs assez spécifiques comme les assureurs, par exemple, où on trouve des obligations qui payent plus que 5% sur du 4 ans. Et donc, c'est un couple rendement-risque que nous trouvons attrayant et qui nous permet d'améliorer la qualité moyenne du portefeuille. Et enfin, la partie.
Excusez-moi. Vous pouvez nous donner un exemple d'assureur qui paye plus que 5% sur 4 ans ?
BNP Cardif. Donc BNP Cardif, c'est le bras assurance, enfin BNP, donc groupe banque assurance. BNP Cardif, c'est la filiale captive d'assurance du groupe BNP. Et aujourd'hui, il y a du papier Cardif, échéance 2025, qui paye plus de 5% de rendement.
Et pour vous, vous considérez…
Et qui est noté triple B. C'est pour nous, c'est une opportunité d'investissement.
D'accord. Alors après, les questions que j'ai, les interrogations que j'ai plutôt, c'est quand on rentre dans le monde comme ça des obligations, OK, BNP, Cardif, 5%, on va même supposer que BNP et Cardif ne vont pas faire faillite, ne vont pas faire de défaut partiel, que tout se passera bien et qu'ils vont payer. Vous, pour créer ce fonds, vous mettez automatiquement des frais. Donc, vous allez mettre 1 ou 1,5% de frais, ce qui va réduire la valeur la valeur du rendement net pour le client. Et ensuite, en face, on a une inflation qui est réelle. Donc, l'inflation de cette année, on la connaît à peu près. L'inflation de l'année prochaine, on peut un petit peu l'estimer. Et celle des années après, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on a un rendement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que ça peut paraître sympathique ce 5%, mais en fin de compte, ça ne va juste permettre que de protéger la valeur de son argent et probablement pas beaucoup plus, et que c'est pour ça que c'est à ce taux-là.
Oui, mais alors après, ça dépend de la façon dont vous raisonnez. Mais si vous raisonnez en valeur relative, je prenais par exemple tout à l'heure l'exemple de quelqu'un qui est en contrat en euros, contrat d'assurance vie en euros. Les contrats d'assurance, je ne sais pas ce que sera la. Ce que seront les taux servis dans les 4 prochaines années, mais je pense qu'ils seront inférieurs en moyenne à ce rendement de 7%. Alors certes, avec un risque moindre, mais je pense qu'ils seront largement inférieurs au rendement de notre portefeuille qui est de 6,80, disons, pendant les 4 ans. C'est-à-dire, c'est pas pendant un an, c'est pendant les 4 prochaines années, si le portefeuille n'a pas de défaut. C'est le rendement que vous avez à l'arrivée, si vous voulez. Et donc ça nous paraît attrayant. Alors, ça vous oblige effectivement à prendre un surcroît de risque, mais ce surcroît de risque, nous pensons qu'il est maîtrisé. Alors pourquoi nous pensons qu'il est maîtrisé? D'abord parce que ça fait quand même c'est notre métier, donc on a la faiblesse de penser qu'on a une certaine compétence pour sélectionner les obligations. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, il est quand même positionné de façon défensive. On privilégie des secteurs peu cycliques, des secteurs comme les télécoms, comme la santé, dont nous pensons qu'ils resteront résilients, même en cas de récession sévère en Europe. Après, effectivement, si on met ce rendement, on le met en face de ce que sera l'inflation dans les 4 prochaines années, évidemment, il est évident que on n'a pas le même rendement. C'est certain. Mais compte tenu justement de ces problèmes de taux réel, enfin de taux calculé après l'inflation, ça nous paraît avoir du sens justement de se mettre sur des classes d'actifs qui offrent justement en ce moment du rendement. Un meilleur rendement que le portefeuille général des assureurs, qui lui est quand même encore beaucoup composé d'obligations souveraines, qui ont un rendement beaucoup plus bas.
D'accord. Donc, l'idée de la création de ce produit, c'est pour donner, c'est de trouver une alternative crédible et de meilleure qualité au fonds euro, en supposant qu'aujourd'hui, le risque est très faible eu égard au rendement qu'on peut avoir sur ce type de société, c'est ça?
Oui. Alors, j'aime pas dire qu'il n'y a pas de risque, parce que c'est faux. C'est faux de dire ça. Mais nous pensons que ce portefeuille est quand même très défensif et qu'il y aura extrêmement peu de défauts dans le portefeuille, voire pas du tout.
D'accord. Et quand on crée un fonds de cette manière-là, est-ce que quand on annonce le taux, on prend déjà en considération un petit taux de défaut, ou est-ce que vous annoncez un taux et vous prenez en considération zéro défaut?
Non, là, on donne le rendement tel qu'il est affiché, c'est-à-dire la moyenne des rendements des obligations en portefeuille, sans taux de défaut. Et je vous rappelle que ce rendement, en fait, fait un certain nombre d'hypothèses, et en particulier que tous les coupons que l'on perçoit pendant la durée de vie sont réinvestis au même taux que le taux initial. Ça, c'est la convention du taux de rendement en finance.
D'accord. Et quand vous dites qu'ils sont réinvestis au même taux que le taux initial, c'est pas toujours possible, ça?
Ben non, justement.
D'accord. Okay.
C'est pour ça qu'on ne peut pas jamais garantir un taux à l'avance. En fait, à l'arrivée, il faut payer pour savoir. Nous, ce que nous disons à nos clients, c'est qu'aujourd'hui, donc, ce portefeuille, il offre un rendement proche de 7% pendant 4 ans. Et en gros, la valeur liquidative du fonds, quand le fonds sera liquidé, elle sera proche de. Elle sera quelque chose, elle ressemblera à 128, quoi. C'est-à-dire 4 fois 7.
D'accord. Et quand on, si on fait un petit peu appel à votre expérience et au fonds que vous avez géré dans le passé, les taux de défaut auxquels on doit s'attendre, ils sont entre combien et combien? À un moment, tout à l'heure, vous avez dit peut-être même pas de défaut. C'est arrivé régulièrement dans les fonds que vous avez géré.
Oui, je parle de notre portefeuille.
Oui.
Par exemple, on met du Renault en portefeuille. Obligation Renault 2026, ça paye 7% aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ça fait un spread, une prime de risque de 5 points par rapport à une OAT 4 ans, 5% de surcroît de rémunération. Donc, ça veut dire que le marché anticipe que Renault a une probabilité de 7% par an de faire défaut. C'est-à-dire une probabilité cumulée au bout de 4 ans de 28%. Mais nous, ça nous fait rigoler, un scénario comme ça. Nous pensons que Renault ne fera pas défaut dans les 4 prochaines années. On en est certain. Et alors après, effectivement, il y a toujours des événements qui peuvent se produire et que personne n'avait imaginé. Personne n'avait imaginé la guerre en Ukraine, par exemple. Et donc ça, malheureusement, on ne peut pas prendre en compte ce type de scénario dans nos hypothèses. Donc ce que l'on fait, effectivement, pour atténuer le risque de nos portefeuilles, c'est en fait de construire ce qu'on appelle des portefeuilles granulaires, c'est-à-dire des portefeuilles avec une forte dispersion des risques, une bonne diversification sectorielle et des règles de bon sens qui veulent que moins bien un papier est noté et moins il représentera dans le portefeuille.
D'accord.
Et après, avec d'autres règles de bon sens qui font appel à l'expérience, par exemple, aujourd'hui, on a pris le parti de ne pas mettre d'obligations triple C en portefeuille. Donc, les triple C, c'est les obligations les plus risquées du high yield. Pourquoi? Parce qu'on est quand même en train d'entrer en récession, et que le taux de défaut du marché va augmenter, et que généralement, ceux qui font défaut en premier, c'est les dominos les plus fragiles, quoi. C'est-à-dire, c'est les émetteurs les plus endettés dans les secteurs les plus vulnérables.
Et combien de sociétés vous allez mettre, ou environ combien de sociétés vous allez mettre dans votre fonds?
Alors aujourd'hui, on en a une soixantaine, une petite soixantaine. Et Alors après, ça dépendra un petit peu de la façon, de la vitesse et du rythme auquel le fonds grossira. Parce que si vous voulez, la particularité du marché obligataire, c'est que vous pourrez trouver des opportunités, mais ce n'est pas forcément là où vous aviez imaginé d'investir au départ. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans 3 mois, par exemple, si on a des souscriptions dans 3 mois, on n'aura pas forcément exactement les mêmes opportunités que ce que nous trouvons aujourd'hui. Et donc, ça peut influer sur le nombre de lignes et d'émetteurs qu'on met en portefeuille. Mais l'idée, c'est d'avoir autour de 60, 70 émetteurs à terme dans le portefeuille.
D'accord. Et comme le fonds de la même manière que le fonds de Sanso, c'est un fonds où on pourra rentrer et sortir librement pendant toute la
Oui.
durée du fonds, ou vous allez à un
Oui.
moment closer le fonds et fermer les souscriptions?
Alors, si le fonds atteint une taille, aujourd'hui, par exemple, vu d'aujourd'hui, si le fonds arrivait, par exemple, à 150 millions d'euros, peut-être commencerait-on à prendre des dispositions pour limiter les entrées dans le fonds. La bonne nouvelle, c'est que comme on a opté pour un fonds 2026, 2026, c'est précisément l'année où il y a le plus de tombées obligataires dans le marché du haut rendement, en fait. Et donc, c'est vraiment la maturité aujourd'hui qui offre le plus d'opportunités dans le marché, en fait. C'est là où le marché est le plus profond. Sachant qu'il y a très peu de tombées entre maintenant et 2025. Et les choses sérieuses commencent en 2025 et les plus grosses tombées sont en 2026 et en 2027.
Très bien. Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette participation. J'ai même envie de dire, vous féliciter, vous êtes extrêmement didactique. Vous êtes extrêmement didactique, vous êtes clair, vous êtes plein de synthèse, vous expliquez des choses qui sont, somme toute, assez compliquées de manière vraiment très, très simple. Mille merci pour ça, mille merci pour nos auditeurs, parce que les sujets techniques, les sujets mathématiques, de parler de dérivés et de choses comme ça, c'est pas si simple. Il y a une grosse population qui a pas eu cette chance d'étudier ces domaines et ça peut être un petit peu compliqué. Vous les avez abordés de manière très très simple et ultra didactique et c'est un peu des messages qui remontent en même temps qu'on vous écoute. Donc c'est vraiment très très bien. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc on vous souhaite une bonne collecte. Que ce fonds marche très bien et vous êtes les bienvenus pour venir en reparler quand on sera dedans. Merci beaucoup, très bonne soirée. C'est
Merci Bernard, à
maintenant
bientôt.
au tour de Julien Labrousse de Palacio de Grillo. Alors là, Julien, c'est vraiment dans Parlons Patrimoine, il remplit toutes les cases. Il remplit toutes les cases. Il est français, il habite le Portugal. Il est dans le patrimoine historique. Il est dans le patrimoine financier. On aurait pu le mettre à n'importe quel moment de l'émission. Il a fait des investissements. Donc, comme tous les gens qui ont fait des investissements, des bons, des moins bons, il a acheté, il a revendu. Alors, là, on a décidé de se concentrer sur le Palacio do Grillo, qui est une de ses activités. On va en parler tout à l'heure. Avant, Julien, je vais vous demander de vous présenter un petit peu, de parler de vous, de nous raconter un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites. Et puis après, on se concentrera sur le Palacio de Rio et on parlera exclusivement de ça. Là, il va falloir que vous mettiez votre. Voilà, ça y est, votre micro est mis. Alors, malheureusement, je vous en. Allez-y, parlez.
Oui, non, vous
Ça
m'entendez
y
bien.
est, je vous entends parfaitement.
Vais même rajouter le micro de. Parce que, en fait, voilà, ça va être même confortable, peut-être. Le son va être de meilleure
Encore
qualité, je
meilleur,
pense. Voilà.
encore meilleur.
Donc, voilà. Bon, bah, merci de m'avoir invité. Donc, mon activité principale est encore en France, mais je vis au Portugal. Donc, moi, j'ai deux théâtres qui sont situés à Paris, près de Montmartre. Ce sont deux théâtres de 1500 et 2000 places. Ça a été on va dire, mes premiers projets qui étaient liés au patrimoine, que j'ai monté un peu à la sueur du front, qui étaient deux théâtres, l'un était brûlé, l'autre était abandonné, avait été transformé en cinéma. Et donc voilà, c'est un peu de cette manière-là que je suis tombé amoureux des projets qui étaient liés à des patrimoines assez forts, où il y avait des valeurs culturelles, une histoire, et ça m'a beaucoup plu. Et donc je continue un peu dans cette dynamique-là. Et dans mon projet de m'installer au Portugal, qui a commencé à travers un projet assez grand que je fais sur un cap qui s'appelle Cabo Espichel, dans lequel, avec mon frère, on a acheté 4,5 km de terrain. Très peu cher, puisque initialement non constructible, sur lequel on fait un projet assez ambitieux en architecture japonaise, ou sur lequel, après de longues années de dialogue, enfin après 5 ans de dialogue, on a eu un accord. Et donc voilà. Et durant ces années de développement pour l'autre projet, le projet du Palacio do Grillo nous s'est présenté, et du coup, j'ai saisi l'opportunité.
Alors, Palacio do Grillo, donc à la base, c'est un palais, et à l'intérieur de ce palais, vous avez créé un restaurant qui aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est la seule activité, et si ce n'est pas la seule activité, c'est l'activité vraiment principale et majoritaire du palais. Et dans ce restaurant, vous avez décidé d'y mettre alors deux choses, j'y suis allé plusieurs fois, donc deux choses qui sont un petit peu, qui sortent un peu de l'ordinaire. D'abord, une décoration et un mobilier très design, et de l'autre côté, une troupe de théâtre, ou en tout cas des mini-scènes ou des mini-pièces de théâtre assez différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, on a un restaurant, une exposition de mobilier design et des scènes de théâtre ou du jeu de théâtre ou de la troupe de théâtre. Allez, je vous laisse commencer un peu par
non,
le côté.
Non, alors voilà. En fait, le point de départ, la réflexion en fait sur ce lieu, c'est que il est dans un quartier qui est relativement alternatif. Donc c'est un actif assez particulier parce qu'il y a presque 7000 mètres carrés, une partie qui sont comme souvent au Portugal des lots, il y a 2000 mètres carrés de locaux commerciaux et un immeuble avec des locataires qui pour lequel il faudra plusieurs années pour pouvoir les sortir du bien. Donc et de l'autre côté, on a un palais qui doit faire 4000-4500 mètres carrés avec beaucoup de parties communes et qui est entièrement classé. Donc c'est assez atypique, du coup c'est pas évident de proposer un modèle, enfin d'essayer d'envisager un modèle économique. Et mon raisonnement, qui était lié aussi à des désirs personnels, c'était de faire des nouvelles propositions culturelles. C'est-à-dire d'envisager, aujourd'hui, il y a une vraie appétence pour tout format culturel, c'est-à-dire que ce soit les offres muséales, les expositions de tout genre, il y a un vrai renouveau, comme on l'a vu même à Paris, sur les expositions musicales, enfin beaucoup comme ça, de nouveaux formats culturels qui émergent et qui trouvent leur public. Donc, le raisonnement du début, c'était d'essayer de trouver une idée comme ça, un peu alternative. Donc là, en l'occurrence, le raisonnement, c'est un peu de créer comme une espèce de livre vivant, film vivant, c'est-à-dire un lieu dans lequel on peut arriver et qui est un mélange un peu féerique ou surprenant en termes de propositions. Alors, évidemment, il n'y a pas trop de revenus économiques, donc j'y ai adossé effectivement une partie restauration et il y a aussi une partie événementielle qui finalement est dynamisé par cette proposition, puisqu'en gros, la plupart des gens qui viennent dans ce lieu viennent à travers le cadre informel de la proposition, c'est-à-dire ces artistes qui vivent sur place et qui font un travail artistique qu'on a construit ensemble et qui s'exécute tous les jours, plus effectivement une scénographie qui est plus proche du théâtre ou du cinéma que, à proprement dit, une décoration formelle.
Alors, Comment est-ce que se fait le choix? Là, vous venez de dire que les artistes vivent sur place, ils sont logés sur place, ils y habitent, ils y dorment
ou, Oui. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de... Bon, c'est un peu la particularité du lieu, c'est qu'il est très grand et que pour le moment, on ne valorise pas les parties d'habitation existantes. Donc, j'en ai profité pour faire un peu comme une forme de résidence et aussi d'avoir une espèce de continuité et d'avoir un travail un peu de fond. Donc, j'ai proposé aux artistes de tous s'installer comme si c'était finalement une résidence et finalement une pièce de théâtre un peu, bon, qui est plus de l'art performatif, qui se construirait de jour en jour et qui évolue. Donc, c'est un espèce d'endroit qui permet aussi pour le public qui revient de temps en temps de pas être dans quelque chose de répétitif, mais plutôt dans un truc qui s'arrête jamais d'évoluer, quoi.
D'accord.
Et aussi parce que c'est un travail un peu exploratoire, faut quand même le dire, c'était une proposition que j'explore encore. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. J'ai pas encore les limites et le champ par lequel ça va se terminer, mais aujourd'hui l'idée c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on a envie de développer. Quoi. Voilà.
D'accord. Et comment vous choisissez la programmation ou le style du jeu ou qui va faire quoi? C'est collégial? Il y a une grande idée? C'est par opportunité et c'est un petit peu au jour le jour que ça se décide? Comment ou c'est vraiment construit?
Non, c'est vrai. Initialement, c'est très construit. Moi, j'avais vraiment des références culturelles que j'aimais beaucoup, notamment le cinéma d'un Anglais qui s'appelle Peter Greenaway, qui pour moi était la bonne mise en image et la mise en mots de ce que pourrait être un endroit un peu comme ça poétique, étrange et qui soit techniquement réalisable. Donc ça c'était une identité qui me parlait beaucoup. Donc du coup, j'ai appelé un artiste avec qui j'avais déjà travaillé sur le Trianon à Paris, qui est un artiste qui s'appelle Olivier Hurman, qui est venu pendant 3 mois, avec qui on a fait collégialement le travail de scénographie. C'est-à-dire que moi, j'ai fait tout le design du mobilier, de la grande partie, et lui il a fait quelques pièces particulières comme ça un peu grandes, et après on a travaillé communément tout le travail performatif performatif, qui lui est vraiment son univers. Ça fait 30 ans qu'il fait de l'art performance. Et donc, on a bien travaillé le détail plutôt d'une direction artistique dans lequel il y a un champ de liberté pour les artistes de pouvoir improviser, mais dans un champ qui est très, très défini. Et donc, après, on a chaque jour, en fait, des fenêtres de tir d'improvisation sur lesquelles c'est finalement plutôt des choses qui mutent. Une action en inspire une autre, mais avec une ligne éditoriale, une ligne artistique très, très définie. Voilà. Et des choses qui sont totalement interdites, quoi.
C'est-à-dire des choses qui sont totalement interdites.
C'est-à-dire des univers graphiques, des présents, par exemple, on doit c'est totalement interdit d'avoir des choses qui font référence au cabaret ou un ensemble de codes dans lequel on ne peut pas aller, donc, qui sont définis par soit des actions, des choses. Donc ça peut être soit des choses, des vêtements, des objets, des mises en forme qu'on a listées comme ça. Qu'on ne doit absolument, dans lequel on ne doit pas aller s'exprimer pour ne pas faire de confusion, voilà, sur les genres.
Si j'ai bien compris, vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez être, mais vous savez parfaitement ce que vous ne voulez pas être, c'est ça ?
Exactement. En fait, on sait exactement l'identité qu'on veut avoir, mais ça doit être un champ de recherche. C'est un champ de recherche pour essayer de créer comme ça une offre un peu particulière et qui séduise un peu.
D'accord. Donc, vous êtes dans la recherche identitaire en sachant exactement quelles identités vous ne voulez pas épouser.
Exactement. En fait, l'objectif, c'est de créer, que pour les gens, ce soit clair qu'on n'arrive pas dans un cabaret ou dans un restaurant cabaret, c'est-à-dire ce qu'aurait pu être, je sais pas, le Moulin Rouge ou le Paradis Latin, enfin, ce genre de choses, pour que ce soit clair. Donc, les gens doivent avoir le sentiment d'être dans quelque chose d'un peu décousu, déconstruit, un peu hybride, dans lequel on est plongé dans un truc un peu muséal, étrange, et du coup qui participe justement à la perte de repères, on va dire, de convention, quoi.
D'accord. Et alors après, bon, comme c'est bien sûr aussi un restaurant, quel style de restauration vous donnez ? Est-ce que c'est évolutif ? Est-ce que vous voulez vous inscrire dans une gamme de prix, dans une gamme de nourriture, dans une territorialité de la nourriture ?
Alors, c'est vrai, au début, on n'a pas réussi à aboutir exactement le projet qu'on avait. Le projet était un peu plus fantasque sur la partie culinaire, mais après, il y a une réalité, c'est que, bon, au Portugal et dans beaucoup de pays en ce moment, on a des grandes difficultés à faire des équipes, et aussi la difficulté du modèle économique. C'est-à-dire qu'on a déjà, on doit supporter la partie artistique à un certain coût. Donc, on peut pas non plus avoir une brigade, délirante en cuisine, donc on doit trouver le bon équilibre. Donc aujourd'hui, ça s'est synthétisé par une cuisine, on va dire, dont le niveau est correct, à mon sens. C'est-à-dire que on a réussi à faire une équipe, mais on n'est pas du tout sur un truc gastronomique. On doit rester dans des prix abordables parce que pour que cette recette fonctionne, il faut un mélange des publics. Donc, il faut à la fois des jeunes, que les artistes puissent venir, qu'il y ait un truc un peu transgénérationnel. Et que ça, à mon sens, un projet comme ça ne doit pas être un restaurant hors de prix. Ça doit rester accessible pour tout type de public. Sinon, ça perd son charme, quoi. Pour avoir un peu cet esprit que, justement, les publics les plus réceptifs et les plus vivants sont naturellement, on va dire, les publics trentenaires qui vont au Palais de Tokyo ou ce genre de là, qui sont pas forcément des gens qui vont dans des... Et aussi les groupes, les anniversaires. Donc, il faut que ce soit un restaurant abordable. Donc, ça met quand même quelques contraintes en termes d'ambition sur la partie culinaire, quoi.
D'accord. De l'expérience que j'ai envie de dire que votre prix, c'est entre 45 et 55 par personne. Vous partagez
c'est un peu, dans les faits, c'est plutôt 40 le prix moyen, parce qu'il y a des gens qui effectivement ont des revenus plus réduits qui vont vraiment faire attention, c'est-à-dire qu'on le voit, c'est des gens qui viennent qui vont prendre un plat, une bouteille de vin et un dessert, et du coup, qui vont plutôt être à 35. Donc ça fait un mélange, et au final, ça fait une moyenne entre des gens très aisés et d'autres moins, mais ce qui était plutôt l'objectif, quoi.
D'accord. On arrive maintenant à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de dire ? Je vous pose cette question parce que souvent les gens que j'interviewe, ils me disent c'est dommage que vous m'ayez pas posé cette question. Donc je vous dis allez-y.
Je défends ce genre de projet. Je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est intéressant. En tout cas au Portugal, il y a une particularité, c'est qu'on peut encore trouver effectivement des biens très atypiques comme ça, où d'un premier abord, les gens pensent qu'il n'y a pas de modèle économique ou finalement Pas trop, c'est des projets très compliqués et finalement, moi j'incite les gens à avoir des projets assez créatifs. Je pense que, et le public, et à la fois en termes d'expérience entrepreneuriale, c'est très intéressant de montrer des projets un peu alternatifs comme ça et qu'au final, il y a tout de même un vrai modèle économique et ça peut avoir tout son sens, quoi.
Très bien. Eh bien, écoutez, je vous
Voilà.
remercie beaucoup. On est arrivé maintenant à la fin de cette interview, à la fin de l'émission. On essaiera de faire quelque chose avec vous plus complet, plus festif pour vraiment essayer de vous aider. Le lieu vaut vraiment le coup d'y aller. Certains aimeront, d'autres aimeront moins. Mais voilà, mais vous serez tous contents d'y avoir été au moins une fois parce que c'est un lieu différent, dans un endroit différent de Lisbonne où on a peu l'habitude d'y aller. Merci beaucoup, Julien, et
Bah,
à
merci
très
beaucoup.
bientôt.
À très bientôt. Au
Au
revoir.
revoir. Voilà, et c'est pour nous maintenant l'occasion de terminer cette émission, de vous dire bonne soirée à tous. Merci de votre fidélité et à très bientôt.